Honneur du prolétariat, l'émission des musiques de synthétiseurs et des fiertés prolétariennes. C'est bien sûr tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Canus 102.2. Nous venons d'écouter Vel Erdbal avec Tanz Music für Roboter. La musique qui se danse pour les robots. C'est bien ça, vous êtes senti un petit peu robot, j'espère, avec cette musique que nous vous offrons de bon cœur. Alors, il arrive le temps, il est donc 19h-2, il arrive le temps où le Canu Info du lundi n'aura pas lieu. Donc ça va bientôt faire un an que cette histoire ça dure, que le Canu Info n'existe plus, que plus personne n'a pris les successions de la glorieuse équipe passée. Jean-Pierre, Michel, Pierre, Jacques, j'ai oublié, Jacques, Pierre. Bon, voilà, en tout cas Jean-Pierre c'est sûr, Michel c'est sûr, mais j'ai un doute sur le troisième larron. Bon voilà, eh bien ils nous ont quittés pour d'autres horizons, d'autres projets, et toujours il n'y a pas de Canu Info, donc ma mission c'est de passer avec vous un temps, parce que bien sûr vous êtes désappointés, vous êtes tristes, vous êtes...
Alors bonjour chers auditeurs, si il y a un Canu Info, c'est juste que c'est une rediff, donc on va démarrer avec le générique dès qu'on y arrive. En attendant, je vous remets bonne continue.
Six in the morning, come the Lord to protect me from myself, my wicked ways, relieve me of my jaw. I grew some seed, while nature dies through corporate greed. But you distribute dangerous drugs, people in the third world die from need. Spare lectures on what's good for me, where your phosphor bombs and your zyklon B and your...
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h04 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi avec plein de choses délectables et beaucoup moins aussi.
Eh oui, dans la délectation, nous allons aborder à l'international l'inénarrable Donald Trump, puis nous irons du côté du berceau de la civilisation démocratique en Grèce, où ils devront se serrer la ceinture. Puis après, nous aborderons notre grande patrie, où nous parlerons de ce formidable mouvement jupitérien des législatives, où tous les lobbyistes et capitalistes de France ont pris le pouvoir. On parlera de la contre-offensive à tous ces bâtards qui essayent de nous enfler, avec la réunion du Front Social à Paris qui a décidé fermement de contrer Macron. L'état d'urgence de Macron justement deviendra la norme si l'on ne fait rien. Et parmi les grandes héroïnes justement de la lutte anti-répression, on aura Amal Bentoussi que nous évoquerons puisqu'elle a été arrêtée. Oh honte. Au local, plus près de chez nous, la lutte des 8 bus continue et les nuits de Fourvière ont été sensibles à l'intellectualisme de gauche qui leur a expliqué qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas. À Barbus, toujours, les collègues et les camarades sont motivés et en plus, on vous fera un petit compte-rendu d'un autre héros, le Grec, qui a passé des vacances un peu toutes pourries en tôle. Puis, pour parler de la tôle toujours, on aura un super dossier prison et anticarcéral qui vont nous expliquer un peu comment cet épouvantail fonctionne pour de vrai. On terminera
par le traditionnel agenda.
Et ça sera super. Alors à l'international, aux États-Unis, pays le plus puissant militairement dans l'univers, le méchu de service, amant infatigable de Daisy, accessoirement de Pluto, affole les officines du pouvoir par sa politique étrangère, sinon décousue, en tout cas en parfaite adéquation avec son programme électoral raciste, impérialiste, militariste, sexiste, cucux, clanix, bref, euphémisons en le qualifiant d'isolationniste. Trump, baratineur universel qui a donné naissance l'année dernière à un proverbe vieux comme le monde, un éléphant ça trompe énormément, a unilatéralement décidé d'amputer d'un tiers, 37% le budget de l'aide internationale au développement géré par le ministère des Affaires étrangères qui était de 50 milliards de dollars. Alors cette tranche budgétaire fait écho à l'augmentation de 9% des dépenses militaires. On a donc un mouvement schizophrénique aux USA où l'on se claque les cuisses allègrement en célébrant le great business qui reprend après les années politiquement correctes d'Obama où il s'agissait de ne pas passer pour des monstres tout en le restant. Avec le subversif allumé de la maison très blanche, la figure psychologique du pater familias décomplexé apporte toutes les promesses à la bourgeoisie américaine qui se sent les coudées franches, mais quand même, quelques considérations stratégiques machiavéliques viennent obscurcir ce tableau idyllique. Certes, le Trump permettra de se gaver. Il n'y a plus de son ? Allô, allô ?
Si, il y a du son.
Ok. Certes, le Trump permettra de se gaver grave et on pourra, après s'être engraissé, expliquer que c'est sa faute à lui tout seul et on pourra se décharger des responsabilités en le renvoyant à sa télé-réalité. Mais quand même, c'est tellement nimble que les grands pontes de l'armée déplorent ce revirement nihiliste, comme par exemple ce généralissime qui nous explique, comme le comptable de la faucheuse, que si Trump diminue le budget de l'aide au développement, c'est autant de munitions qu'il faudra acheter. Ainsi, 120 généraux et amiraux à la retraite viennent d'écrire au Congrès et à la Maison Blanche pour les exhorter à préserver les budgets de la diplomatie et de l'aide au développement, dixit, cruciaux pour empêcher les conflits. Bon, qu'est-ce qu'on se marre ? Ce qui est en jeu, évidemment, c'est les crédits à la corruption et au soft power. Une partie de la bourgeoisie américaine y perd dans les marchés de la reconstruction. Mais Trump et sa clique essayent un nouveau paradigme. Loin du contrôle social et de la légitimation du monde libre, il s'agit aujourd'hui d'économiser le volet colonialiste de l'impérialisme américain pour en renforcer l'aspect féodal. Trump renonce à placer ses gens dans le pays qu'il attaque pour se contenter de les désinguer tous et tout le temps. C'est le passage à une économie eschatologique de la destruction systématique.
En parlant de destruction systématique, on peut parler de la Grèce et de tout ce qui était pas mal en Grèce, comme la retraite, les salaires, ou qui du moins restait encore un peu... Ah, on ne s'entend pas très bien, pardon.
Si, c'est bon. Okay. Vas-y.
C'est vos casques qui sont tout pourris.
D'accord. Bon, tout ça pour dire que lundi, aujourd'hui, notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est arrivé à Athènes pour une courte visite destinée à faciliter les négociations avant un Eurogroupe consacré en grande partie à la Grèce. Donc l'Eurogroupe, c'est la réunion mensuelle et informelle des ministres des Finances des États membres de la zone euro pour y coordonner leur politique économique.
Les décideurs, quoi.
Les décideurs qui décident sans qu'on sache trop comment, d'où l'adjectif informel, enfin tous ces processus européens un petit peu opaques, n'est-ce pas ? Donc le but de sa visite en Grèce est de faciliter les négociations pour qu'il y ait un accord de l'Eurogroupe qui donne à la Grèce une perspective de stabilité et de croissance. En fait, ce qui se passe, c'est que la Grèce a engagé donc un troisième plan d'aide de 86 milliards d'euros auprès de la Banque Centrale Européenne, le Mécanisme Européen de Stabilité et le FMI, Fonds Monétaire International. Et elle doit donc elle se fait prêter des thunes par tranche et la négociation est bloquée sur la prochaine tranche de 2 milliards d'euros. Et la Grèce a besoin, alors là ça devient compliqué, moi j'ai du mal à suivre, mais la Grèce a besoin de ces 2 milliards d'euros pour pouvoir rembourser plus de 7 milliards d'euros à ses créanciers le mois prochain. Donc voilà, en gros, il leur faut des sous pour pouvoir rembourser des sous. Et en tout cas, les prochains 2 milliards, c'est bloqué. La zone euro, en particulier l'Allemagne, veut que le FMI participe financièrement au plan. Et celui-ci ne veut pas le faire sans engagement des Européens à alléger la dette grecque, qui est de 180% du PIB. En tout cas, en attendant, pas de milliards d'euros à la Grèce, qui pourtant a accepté depuis un an et demi toutes les exigences des créanciers en termes de mesures d'austérité.
Alors que pourtant, c'est la gauche radicale qui est au pouvoir.
Tout à fait.
Radicale.
Incroyable.
Ouais. Comme si c'était Méluche, quoi.
Donc je crois que finalement, je vous passe sur le mécanisme proposé par Bruno Le Maire. En gros, c'est un mécanisme qui serait un peu plus souple sur les timings de remboursement, qui serait lié à la performance du pays plutôt que de fixer des échéances de remboursement. Mais surtout, ce qui est important de redire, c'est que Bruno Le Maire a bien sûr salué le courage d'Alexis Tsipras et souligné les décisions importantes et difficiles prises par le gouvernement grec ces derniers mois. C'est-à-dire
toujours
tout
facile de trahir.
Plier systématiquement devant la Troïka, c'est dur, ouais.
Exactement.
Ça doit être dur.
Ouais, c'est dur.
Donc, ce troisième plan d'aide signé le 13 juillet 2015, 86 milliards d'euros, plus de 220 nouvelles mesures d'austérité sur les trois prochaines années. Un mémorandum adopté au Parlement grec le 14 août, qui, avant même d'être adopté, il y avait déjà eu une hausse de la TVA de 21 à 23%, l'adoption d'une règle d'or budgétaire. Suite à ça, le 17 octobre, donc suite à ce mémorandum pour les 86 milliards, des lois qui entraînent 4 milliards d'euros d'économie avec le passage de l'âge du départ à la retraite de 65 à 67 ans, par exemple. La disparition des retraites anticipées.
Comme chez nous. Ils vivent vieux en Grèce, je crois, c'est pour ça.
Ouais. En fait, c'est pour sauver les retraites, ouais, surtout. Ouais.
Et à côté de tout ça, rien ne peut être adopté sans l'accord des créanciers. Donc, le gouvernement ne peut adopter aucune loi ayant un impact sur le budget sans autorisation des créanciers.
Mise sous tutelle.
Voilà, mise sous tutelle de la Troïka. Le jeudi 18 mai, une dernière loi omnibus a été portée pour 45 nouvelles mesures d'austérité, dont une nouvelle réforme des retraites, la 14e depuis le début de la récession en 2010.
Eh bien, bon courage aux Grecs.
Voilà, alors on va passer au national où certes on n'est pas encore à essayer de trouver des lentilles de contact pour Homer comme en Grèce. Mais on est quand même bien servi puisque du haut de l'Olympe, Jupiter est descendu pour régler tous les problèmes de la France et de la tour Montparnasse. Alors, comme on est des gens très sérieux au Canu Info du lundi, effectivement, on a préparé un sujet béton pour vous parler des législatives et plus généralement du peuple français qui est marseillais aujourd'hui et s'est affirmé dans sa conviction démocratique comme le soutien massif du premier parti de France, j'ai nommé Pastis, 51% d'abstention.
Voilà, et justement, c'est quand même un truc qui a rappelé, si on prend les personnes inscrites sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacées, les personnes qui n'ont plus le droit de voter ou qui n'ont pas le droit de voter, et donc si on regarde vraiment en pourcentage de population, combien ça fait moins de 11%, ça fait entre 10% et 11% de la population qui habite, qui réside sur le territoire national, qui a voté pour La République En Marche.
Ce qui veut dire que c'est un vote franc et massif.
Légitime, qui va permettre de nous matraquer la tronche avec des mesures antisociales en veux-tu en voilà, des mesures sécuritaires, impérialistes. Vraiment, ça légitime complètement les mesures de la semaine prochaine, dès demain, dès aujourd'hui même, du prochain gouvernement, qui va être d'ailleurs finalement à peu près le même, à part s'il y a un ou deux élus qui ne vont pas aller.
Rendez-nous Gérard
Collomb. Voilà. Donc pour faire de l'analyse fine, on s'en bat totalement les reins de ce qui s'est passé aux législatives, à part qu'il y a quand même 51% des personnes, on va enlever ceux qui ont voté ELO ou NPA, tu vois, qui sont quand même des gars bien et qui font de la thune à des partis frères, et on leur dira, c'est dans la rue, le 19 juin, que ça commence, et dans tout l'été, et la rentrée surtout, dans la rue.
Rendez-vous avec force.
Et oui, du coup, avec le Front Social, ça sera dans la rue, très vite.
Certainement, c'est d'ailleurs ce qui s'est un peu dit du coup à la réunion. Moi, j'y étais pas personnellement, mais les camarades qui sont allés en éclaireur nous ont fait un petit compte-rendu. Donc samedi, il y avait la réunion, grande réunion de Front Social, préparation à la manif du 19 juin. Et du coup, dans une salle de 500 personnes, donc pour une réunion, c'est pas mal. Et donc il y a eu pas mal de prises de parole, donc 500 personnes dans la salle, et notamment un peu des petites stars genre Frédéric Lordon, Franck Lepage, qui venaient juste assister, même pas pour prendre la parole. Donc il se passe comme quelque chose, et donc il y a eu pas mal d'interventions de pas mal de gens de différentes régions de France qui étaient montés à Paris pour faire part de leur lutte dans leur boîte, etc. On a entendu, d'après les camarades qui sont rendus là-bas, des discours très très radicaux et de bon augure pour
notamment de sections syndicales qui sont en lutte en ce moment et qui ont porté leur lutte en disant qu'ils avaient rien à attendre de leur direction syndicale pour le moment. Ouais. et que pour eux le Front Social c'était aussi un véritable tremplin pour leur propre lutte, quoi, que en fait de la part de leur direction il y avait pas le soutien qu'ils pouvaient attendre et que ils se retrouvaient dans le Front Social vraiment, quoi, comme c'est le cas aussi à Lyon par exemple avec les
voilà.
de Ouibus
et puis d'autres hélas il y en a plein qui vont voilà. Donc en fait voilà, c'est lieu un peu de rencontre et puis de mise en commun des forces et aussi des peines, puisque c'est autour des peines aussi qu'on se mobilise et qu'on essaye d'être fort et puissant, que va se jouer la suite, et on espérera qu'il y ait moins d'abstention qu'aux législatives dans la lutte dans la rue. Et on vous rappelle que la prochaine réunion du Front Social à Lyon, c'est ce mercredi à 18h à la Bourse du Travail, c'est au troisième étage, c'est une réunion ouverte, c'est libre, vous pouvez vous pointer comme ça, et qu'il y aura cette manifestation le 19 juin, 18h, départ de Place des Terreaux, et il faut être nombreux et nombreuses.
Voilà une des mesures phares que Macron voudrait passer en ordonnance après les législatives serait le passage de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc il faut savoir que ça, comme le gouvernement dit, ça renforcerait la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure qui a été soumis au Conseil de défense le mercredi 7 juin. Ce texte dit que quasi toutes les mesures de l'état d'urgence pourraient se retrouver dans le droit commun. En clair, des mesures jusqu'ici temporaires et exceptionnelles qui limitent les libertés des citoyens le temps de lutter contre un danger imminent risqueraient de devenir légales en temps normal. Donc jusqu'à présent, la plupart de ces mesures requérait l'intervention ou le contrôle d'un magistrat afin de protéger les citoyens contre d'éventuels abus policiers. Désormais, l'État, par l'entremise des préfets, pourrait décider seul de leur utilisation et imposer des bracelets géolocalisables ou limiter la liberté de déplacement d'un citoyen sur simple soupçon. Au-delà de même... Et même si le texte est limité au domaine de l'antiterrorisme, ce qui en limite la portée, de nombreux juristes ou acteurs politiques s'insurgent contre un texte qui va à l'encontre des principes de protection des libertés publiques qui ont été bâtis et consolidés après la Seconde Guerre mondiale. Donc, juste pour quelques exemples qui pourraient devenir permanents, donc l'interdiction de la circulation de personnes ou de véhicules dans des lieux et aux heures choisies, interdiction de séjour dans toute une partie d'un département pour une personne qu'on considère qu'elle entrave de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Ouais, le ministère de l'Intérieur et le préfet pourraient, sur l'ensemble du territoire dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des bits de boissons et lieux de réunion, interdire à titre général ou particulier des réunions considérées comme de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Comme nous, quoi.
Voilà, exactement. Donc c'est très, très ambigu. Donc on pourrait, c'est un truc hyper fourre-tout. Donc il pourrait aussi placer une personne suspecte sous bracelet électronique. Le décret déclarant ou les lois reconduisant l'état d'urgence donne aussi au préfet le pouvoir d'ordonner des perquisitions au domicile de jour comme de nuit, le droit aux tribunaux militaires de saisir des crimes qui relèvent normalement de la cour d'assises du département, et le droit de fouiller des véhicules sans instruction du procureur. Donc, en gros, plein pouvoir à la police. Que dit le projet de loi du gouvernement ? Donc, l'esprit du projet de loi pourrait se résumer par la formule « tenir à l'écart la justice ». La plupart de ces outils, pour l'instant, sont limités à un cadre exceptionnel, seraient mis définitivement à la disposition du ministère de l'Intérieur et de notre cher Colomb, et des préfets qui pourraient donc prendre en matière d'antiterrorisme une série de mesures sans intervention d'un juge censé garantir les droits et libertés des citoyens. Mais il ne faut pas oublier aussi que notre gouvernement bienveillant qui s'occupe de notre sécurité à notre place est mis sous la loupe par un rapport d'Amnesty International du 31 mai 2017 qui dénonce l'usage de ces mesures par l'État pour réprimer de manière disproportionnée des manifestations. Donc, on sait très bien pour qui elles vont être cibles, ces lois, et n'importe quel temps.
Et on a hâte de la fin de l'état d'urgence et d'en avoir un nouveau avec toutes ces normes actuelles de l'état d'urgence qui vont être maintenant dans les lois pour tout le monde. Et le prochain état d'urgence, mais ça va être terrible, ça va être sympa, vivement.
Couvre-feu. Ouais.
Et oui, et puis de toute façon, ça continue. Hein. Là, on va vous parler d'arrestations diverses en banlieue parisienne. Il est 19h ce mercredi 7 juin quand Amal Bentounsi sort son téléphone pour filmer une interpellation policière. Elle se trouve dans le quartier de la Pierre Collinet à Meaux, où elle a grandi et où sa mère habite. Un jeune qu'elle connaît vient d'être arrêté. Amal Bentounsi, c'est la sœur d'Amin Bentounsi, tuée à 29 ans d'une balle dans le dos par un policier qui tentait de fuir. C'est le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec, son frère. Depuis, elle en a fait le combat de sa vie. En mars 2017, le policier Damien Sabounjian est condamné en appel par la cour d'assises de Paris à 5 ans de prison avec sursis et l'interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Une petite condamnation, mais une victoire pour celle qui a fondé un collectif de lutte contre les violences policières, Urgence Notre Police Assassine. Donc le jeune, là, donc on retourne à Meaux, le jeune venant d'être arrêté par la police, Amal suit l'interpellation en la filmant avec son téléphone. Une pratique légale et fréquente aujourd'hui comme moyen d'autodéfense. Les forces de l'ordre se montrent certainement moins zélées et plus courtois quand ils savent que la scène est filmée. La vidéo est diffusée en direct sur la page Facebook du collectif Urgence. Au bout de 3 minutes, un agent de police s'approche de la militante. « J'ai le droit de filmer », lui lance-t-elle. « Oui, vous avez le droit, mais j'ai le droit de vous contrôler aussi. Vous allez le mettre sur Internet, c'est un délit », affirme le policier, lui demandant une pièce d'identité qu'elle lui tend. Elle l'informe alors faire partie du collectif Urgence Notre Police Assassine. « Je vous rappelle que la diffusion est un délit », reprend le policier. « Ah non, je connais très bien les textes de loi, ne vous inquiétez pas monsieur. » Devant les intimidations croissantes des flics, Amal lâche un « Mon frère a été tué par la police ». « Ah, on y vient, d'accord, on y vient », lance un des policiers. Un autre partage sa fine analyse de la situation. « C'est une femme perdue ça ». Sans violence aucune de la part de
la fin, ouais. Ouais.
Sans violence aucune de la part de cette maman de 4 enfants et de 41 ans est devenue la véritable bête noire de la police. La situation dégénère pourtant et son téléphone arraché, Amal Bentounsi est menotté puis emmené sans opposé de résistance par 3 policiers au commissariat de Meaux. Elle y restera jusqu'au lendemain après-midi. La vidéo, elle, toujours visionnable sur Internet, est parlante. Amal Bentounsi cherchait à montrer ce que fait la police au quotidien dans les quartiers populaires, contrôler, menacer, instaurer un climat sécuritaire et répressif envers la population. Comme on le voit sur la vidéo, c'est parce qu'elle voulait filmer un contrôle de police que les forces de l'ordre se dirigent vers elle. C'est un délit de diffuser ces images, disait-il. Un mensonge que les policiers cherchent pourtant à perpétuer. Alors même que la circulaire du 23 décembre 2008 affirme que c'est légal de filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions sur la voie publique. Ce mensonge, de nombreux médias ont cherché ces derniers jours à le valider en imputant à Amal Bentounsi des faits extrêmement mensongers pour légitimer une garde à vue arbitraire. Europe 1 a en effet expliqué qu'elle refusait de se soumettre à un contrôle d'identité. Élément totalement démenti par la vidéo où on entend la porte-parole accepter le contrôle sans même élever la voix. Le Parisien va même plus loin en affirmant qu'elle aurait tenté d'ouvrir la portière d'une voiture de la police municipale pour en faire sortir un homme interpellé. Mensonge qui, s'il ne vient pas de l'esprit du journaliste même, ne peut venir que d'un policier chargé de camoufler les actions de ses collègues. Aucune rétractation ne sera faite de la part de ces journaux. Et aujourd'hui, Filmer les policiers est ainsi devenu une action à haut risque, passible d'une nuit ou plus en garde à vue alors qu'elle ne possède aucun fondement légal. Plus encore que filmer de manière occasionnelle, c'est lutter contre l'impunité, réunir les témoignages et organiser la solidarité avec les victimes qui entraîne aussitôt la répression. On l'a bien constaté notamment dans le cas de l'affaire Traoré et de la répression exercée sur les membres de sa famille en lutte. De la même manière que l'état policier, dans la continuité de l'état d'urgence permanent et du projet de son inscription dans le droit commun, se résoudra bien un jour, comme dans le cas des nouvelles conditions de légitime défense pour les policiers, à interdire de filmer les agents en exercice. C'est donc à nous, toutes et tous, au quotidien, de lutter avec acharnement contre l'appareil d'État répressif et par conséquent, car on imagine mal la dictature bourgeoise nous concéder d'elle-même quelques terrains, la mettre en échec.
Oh yeah.
Voilà, sans transition, oui bus, la lutte continue.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2.
Bon, je récupère. Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Je suis
un petit nouveau.
Je suis nouveau.
Vas-y.
Donc la lutte continue à Ouibus, oui. Donc on vous résume très très vite la situation. Ça fait 3 semaines qu'on vous en parle. Les Ouibus donc sont revendus à Fort, une entreprise Fort. On les revend comme de la marchandise, alors que ce sont des salariés, des êtres humains. Et ils vont perdre 600 euros sur leur fiche de paye et aucune... Enfin, ils vont dans une précarité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas pour longtemps pour qu'ils soient licenciés une fois qu'ils auront quitté la SNCF, qui est quand même encore une maison un peu sécure. Mais les lois du capitalisme, du néolibéralisme et de la sous-traitance en veulent autrement.
Merci Macron, et d'ailleurs, là-dessus.
C'est voilà,
grâce à lui, c'est grâce à
Macron.
Sa loi.
Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est les bus Macron, les Ouibus.
Oui, voilà. Ouais. Et en fait, donc, cette quinzaine de salariés se retrouvent obligés de démissionner et ils sont un peu donc remontés les bretelles et se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ils ont un peu consulté des juristes. Et non mais en fait on me fait des signes et c'est difficile quand même. Donc consulter des juristes, aller consulter aussi les syndicats et là ils sont remontés, ils iront jusqu'au bout, ils sont déterminés et malgré ça on les a séquestrés par deux fois, c'est-à-dire qu'on les a convoqués au siège de Fort, donc à Laurencin dans le sud-est de Lyon et là par deux fois on les a convoqués le matin très tôt et on les a libérés qu'en début d'après-midi. Sans leur donner aucune explication, avec de l'intimidation, des huissiers qui étaient là pour constater que ces salariés ne voulaient pas reprendre le travail alors qu'il n'y a plus de travail. Les bureaux sont fermés, les hangars sont fermés, les dépôts sont fermés et que ces pauvres salariés n'ont rien à faire à part se soumettre à ce à quoi on veut les soumettre, c'est-à-dire démissionner d'eux-mêmes de la SNCF et aller se vendre à Fort pour, sans aucune garantie. À 600 euros de moins.
Et surtout pour un contrat d'uniquement 2 ans, puisque le contrat de sous-traitance est valable que 2 ans. Donc
ces salariés donc, de Ouibus sont déterminés, ils iront jusqu'au bout. Et là, en fait, en ce moment, ils sont en train de rencontrer à la fois des avocats, à la fois des juristes de la CGT. Et il y a une grande réunion à Paris le 14, ils y seront. Le 15, ils sont convoqués pour leur licenciement. Alors on se demande bien qui va licencier, puisqu'ils sont à la SNCF, ils n'ont jamais signé pour Fort. Et on prévoit éventuellement un rassemblement de soutien le matin, le jour de leur convocation pour licenciement.
C'est pas éventuel, c'est sûr.
Les infos seront sur Rébellion, parce qu'on n'est pas encore sûr du jour.
Voilà. Et venez mercredi à l'Assemblée de lutte pour en savoir plus.
Voilà, Ouibus, c'est un symbole.
Ah oui, Ouibus, c'est un peu le symbole de ce qui va arriver bientôt à tout le monde. Donc en fait, si on s'occupe pas de l'opprimé quand c'est pas nous...
Si Ouibus ça passe, après on est tous morts, donc vous venez les soutenir.
Calmez-vous.
Au local, toujours, il y a une victoire du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, dans une affaire de blackface. Au Nut Fourvière, qui accueillait une pièce de théâtre jusque dans vos bras de la compagnie Les Chiens de Navarre, où des acteurs blancs donc se sont grimés en noir dans une scène qui a été dénoncée par des citoyens des gens de la ville de Lyon, par des groupes comme le collectif des Déracinés. Et je m'entends plus encore une fois, mais
si on t'entend.
On va continuer quand même. Et le CRAN rappelle que le blackface est une pratique issue de l'esclavage qui consiste pour des personnes blanches à se déguiser en noir, le but étant en général de susciter le rire et la moquerie. Il rappelle aussi que le blackface est une pratique raciste et il a pris contact avec le metteur en scène qui a annoncé qu'il modifierait son spectacle en retirant les scènes qui posent problème Et la compagnie a aussi écrit un communiqué de presse où il s'excuse auprès des personnes qui auraient pu être offensées par la scène incriminée. Comme quoi la lutte paye. Le président du CRAN est même invité à participer à un débat avec le public sur la question du racisme en France après une des représentations.
Et donc, sans transition, on continue au local.
Au local, dans la continuité des luttes qui paient, mais il y a encore du travail. On va revenir très rapidement sur ce qui se passe à l'école Grand Clément et au collège Barbus à Vau-en-Velin.
La classe.
Ouais. Donc voilà, donc depuis le mois de mars, en fait, dans ces deux établissements, pour simplifier, un certain nombre de familles, en fait, les profs se sont rendus compte qu'un certain nombre de familles vivaient à la rue. Et que les enfants, en fait, bah, une fois qu'ils quittaient l'école, allaient dormir soit dans les parcs publics, soit dans les voitures, en clair, dans des conditions absolument misérables. Donc ce qui s'est passé, c'est notamment un certain nombre de collectifs, le collectif Jamais sans toi devant Vau-en-Velin s'est bougé, un grand nombre de parents d'élèves aussi, ce qui a permis, en fait, de loger ces familles soit dans des hôtels, chez d'autres parents d'élèves, et finalement, en fait, ils ont voté, de chacun de leur côté, l'occupation de Grand Clément et du collège Barbus. Le truc qu'il y a à voir, c'est qu'en fait la mairie de Vau-en-Velin et la préfecture se foutent d'eux, clairement. Enfin, notamment la mairie, en fait, qui au lieu de les aider, disent qu'ils sont pas compétents, renvoient vers la préf, et on commence à mettre en place un flicage, en fait, des profs qui s'en occupent en individualisant, en fait, les codes d'alarme qui leur permettent de débloquer le gymnase, donc ce qui permet de savoir qui débloque le gymnase et contrôler qui fait quoi. Elle envoie la municipale régulièrement, et la préf ne propose qu'une seule et unique solution, c'est en fait d'accueillir ces familles pendant un mois à partir de la condition qu'elles acceptent de repartir dans leur pays d'origine à la fin de ce mois. Donc, en clair, devant, en fait, des propositions toutes aussi plus ignobles les unes que les autres, ces deux collectifs appellent à un rassemblement, donc mercredi à 15h45 devant l'école Grand Clément, une manifestation pour permettre de trouver des moyens pérennes de logement pour ces familles, et ce qui, on peut le rappeler, est en fait un droit normalement constitutionnel, mais qui est hélas absolument pas respecté à partir du moment où il s'agit d'étrangers.
Et toujours au local, rapidement, on en avait parlé la semaine dernière, de l'arrestation d'un camarade lors du rassemblement contre le Bastion Social. Donc le Bastion Social, c'est un squat ouvert par le GUD,
Groupe Union Défense,
groupuscule d'extrême droite.
Groupe Union Débile.
Donc le camarade avait été interpellé vendredi soir en marge du rassemblement avec le mégaphone, les tracts ainsi qu'un fumigène et des pétards. Il a été placé en garde à vue, puis envoyé à Corba pour 2 jours en l'attente de sa comparution immédiate, qu'il a accepté ce mardi. Et il a été condamné à 12 jours amende de 100 euros par jour, donc c'est-à-dire 100 jours amende de 12 euros, c'est-à-dire 1200 euros. Donc pour des chefs d'inculpation, tout à fait en réalité. Tout à fait anodin, hein. Les fumigènes et les pétards dans des manifs, c'est pas non plus du terrorisme. Alors, il a pas bénéficié d'un avocat très compétent, donc il aurait pu effectivement être condamné plus légèrement, mais par rapport aux réquisitions du procureur, c'est plutôt une victoire. Il faut savoir que le parquet a d'ailleurs immédiatement décidé de faire appel, donc on vous en dira un peu plus, et je pense qu'on invitera le camarade ici à l'émission pour nous parler de tout ça quand on en saura plus sur l'appel et la date de l'appel. En attendant, il faut continuer à veiller à ce qui se passe, à les soutenir et surtout à s'organiser face à la montée de l'extrême droite et à son implantation locale.
Et on a décidé, dans le Canu Info du lundi, de faire des petites notions.
Et comme aujourd'hui, on a un dossier consacré à la prison, on s'est dit qu'on allait aborder la question de la liberté en quelques minutes.
Parce que la liberté, Paul Éluard nous dit, c'est un petit poème, il nous dit, la liberté, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Kézako ? Kézako, la liberté. Donc, toutes les semaines, nous évoquons une petite notion, notamment, et aujourd'hui, la liberté, hein, ce qui est un concept totalement foireux, qui a justifié tout et son contraire. Révolution, combat de résistance face à l'impérialisme, jusqu'à la devise de la République française et d'Auschwitz. La liberté porte en elle les aspirations les plus disparates, les plus contradictoires et les plus floues. Comme le dit la personne qui ne l'exprime... Ah, j'ai plus de son.
S'il y a du son, c'est juste
si on t'entend.
Ok.
N'angoisse pas.
Ok. Comme le dit Furtado, Libre est l'état de celui qui jouit de liberté. Liberté est un mot que le rêve humain invente. Il n'existe personne qui ne le comprenne et personne qui ne l'explique. La liberté que nous cherchons ici à Radio Canut n'appartient pas aux épithètes liberté d'expression ou liberté de circuler ou libre concurrence ou encore libre marché ou même radio libre. Ces sortes de libertés sont des ersatz qui cependant ont le mérite de rappeler que la liberté ne peut être que collective, qu'elle est du domaine public. Depuis Rousseau, en effet, on distingue la liberté naturelle d'en faire qu'à sa tête, comme les punks, et la liberté conventionnelle, une forme d'association qui défend la personne et la propriété, par laquelle chacun, en s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Car chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous. Et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Si les poètes et les philosophes nous charment par la liberté de leurs esprits, bien plus souvent par leur puissance, la chose doit cependant nous inspirer la méfiance. Tout ce qui est libre n'est pas d'or. Les Grecs déjà faisaient de la liberté un usage massif, autant que l'esclavage. Tout comme Rome distribuait la paix, au bout du glaive sanglant que justice, patrie et liberté se partagent indistinctement. Sans parler de la liberté du commerce ces dernières années. Nos armées ne sont-elles pas les garantes de notre liberté, de notre constitution ? Et quelle négation plus éclatante de toute forme de liberté que la discipline militaire ? La liberté ? Mais pour quoi faire ? La liberté que nous cherchons est condamnée. C'est celle de notre époque. Plutôt que d'être libre d'entreprendre, elle aspire plus à pouvoir dire que Macron est un peu comme Dark Vador, un salaud aux poches tachées d'ignominie, qu'à chaque fois que les flics de France, qui sont très majoritairement de sales porcs vicieux, mutilent, assassinent ou violent une personne, c'est aussi sur sa tête que retombe le crime, et sur la tête de tous les petits mouchards qui nous espionnent, et de tous ceux qui se gavent, et nos bombes, et nos centrales, et les usines d'armes de notre république de merde, avec ces prisons qui attendent celui ou celle qui ne veut ni bosser comme un esclave, ni courber l'échine pour baffrer de l'agro-merde. Dire que notre histoire coloniale, la politique dite des dits migrants, fait de chaque Français un salaud, fait de la France une vilaine étiquette dont il faudrait se débarrasser au plus vite. C'est dire que notre monde libre, libéral, social-libéral, défendu bec et ongle par nos institutions, c'est celui de l'exploitation de l'être humain, du travail forcé et de la guerre sale. Que tant que resteront sur terre, sur ces armées, ces flics, ces contremaîtres, cette bourgeoisie, resteront les pauvres, humiliés, battus, assassinés, exploités. Et la seule liberté qui existera, ce sera de foutre ce monde en l'air.
Et liberté qu'on va bien tâcher de prendre. On devait mettre un peu de son, mais comme on est super à la bourre, on va faire l'économie du son. Alors voilà, nous on voulait faire un dossier sur les prisons pour rappeler aussi à quel point on veut l'abolir. Alors, à quoi ça sert les prisons ? Ici, on pense que ça sert à rien d'autre qu'à maintenir le capitalisme bien debout, à préserver l'ordre social tel qu'il est, et surtout enfermer les pauvres, celles et ceux qui sont exclus
désigner les mauvais, quoi.
Exactement. Ceux qui rentrent pas dans la norme, qui sont trop pauvres ou trop étrangers pour ce monde-là. Donc on va d'abord essayer d'en savoir un peu plus avec quelques chiffres sur la prison française.
Alors ouais, parce que la France, elle a quand même sa petite spécificité hein, en Europe. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, elle fait vivre aux prisonniers et aux prisonnières, mais surtout aux prisonniers, puisqu'il y a beaucoup plus de prisonniers que de prisonnières. 3,7% de femmes. Certaines des pires conditions carcérales d'Europe. Déjà, la France, c'est l'un des pires taux de surpopulation carcérale. Il y a juste derrière l'Italie, la Grèce et la Hongrie, mais tous les autres pays de l'Union Européenne ont moins de surpopulation carcérale. Hein, donc en France, c'est 118%, soit 69 679 détenus en 2017.
En mai 2017,
c'est-à-dire plus de 1800 personnes qu'en 2016. Donc pour 58 548 places dans le parc pénitentiaire français. Et ce, malgré la construction de 15 établissements pénitentiaires depuis 2008. Plus de 1800 détenus dorment par terre, hein, sur les fameux matelas au sol, soit 26,4% de plus qu'en 2016. Tous les ans, la France se fait épingler par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de détention qu'elle fait subir aux détenus. C'est l'un des pays d'Europe, là aussi, hein, les plus épinglés par la CEDH. Alors, Notre nouveau ministre François Bayrou, hein, nouveau ministre de la Justice, comme tous les nouveaux ministres de la Justice, alors Urvois avant, Taubira, etc., etc., qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vais construire de nouvelles prisons et de nouvelles places de prison pour désengorger les prisons. C'est marrant, à chaque fois qu'un ministre de la Justice devient ministre de la Justice, c'est la même rengaine. À chaque fois, il y a toujours plus de prisonniers, il y a toujours plus de surpopulation carcérale, c'est-à-dire plus de condamnations, mais aussi plus d'incarcérations sans jugement, puisque il y a 20 273 personnes aujourd'hui qui sont dans les tôles et qui n'ont pas encore eu de jugement.
Ça fait 7,3% de plus qu'en 2016, donc c'est vraiment une augmentation constante. Alors aujourd'hui, on a un invité, on va discuter avec Michael, qui a passé 6 mois écroué entre Saint-Paul et Villefranche. Alors Saint-Paul, pour rappel, c'est une prison qui était dans le centre de Lyon, qui a été fermée en 2009 et qui était connue pour ses conditions de détention particulièrement dures. Et puis ensuite à Villefranche, dans une prison plus moderne, donc qui répond un peu mieux aux nouveaux standards de la prison. Bonjour.
Bonsoir.
Salut Michael.
Bonsoir. Ouais, effectivement, du coup, on peut effectivement parler de différence. Il y a, dans les chiffres qui ont été donnés avant, moi, il y a une dizaine d'années, il y avait un chiffre qui me faisait rire, c'était que la France était derrière la Moldavie dans le classement des prisons. C'est assez rigolo, sachant que la Moldavie, on voit à peu près le pays que c'est, la taille du pays, quoi. Et donc, sinon, au-delà de ça, effectivement, Saint-Paul-Saint-Joseph, qu'on oublie souvent de nommer, Saint-Paul-Saint-Joseph, c'était vraiment le une prison où il y avait énormément de manque d'hygiène, énormément de cellules surpeuplées et très mal agencées. On peut pas considérer que les prisons ni avant ni maintenant, et même dans d'autres pays en Europe et même dans d'autres pays dans le monde, on peut pas considérer que les prisons soient une solution, dans le sens où elles accentuent forcément la pauvreté de la personne, puisqu'on ressort pas plus riche. Ça accentue d'autant plus le manque de culture et le manque de réflexion, parce que forcément, bah, en prison, à part regarder la télé, bah, il n'y a pas vraiment de choses à faire autre, sachant qu'on passe 22 heures en cellule. Voilà. Après, les différences, par exemple, à Saint-Paul, il y avait un côté, c'est souvent ce qui ressort aussi, pas seulement de ma vision des choses, mais aussi d'autres détenus, il y avait un côté un peu plus humain, si on peut dire ça, dans le sens où effectivement les prisons modernes sont vraiment gérées, bah, du coup, par des sociétés privées, Bouygues, Vinci, etc., etc., et qui du coup tirent sur les profits, donc tirent sur sur les personnels qui vont travailler au sein de cette institution, et font en fait que quand on est à Saint-Paul, on croise des matons aux portes, parce qu'ils ont des clés, ils ouvrent les portes avec les clés, mais quand on est dans une prison plus moderne, comme à Villefranche ou j'imagine comme à Corba aujourd'hui, il y a plus une caméra et une porte qui va s'ouvrir à distance, avec un maton qui va gérer une dizaine de portes. Donc en fait, on est vachement tout seul, en fait, on se retrouve vachement tout seul. Le seul lien avec le végétal, c'est le drap en coton. Sinon, il n'y a pas de végétal, c'est que du béton. Ce qui est aussi quelque chose qui m'a quand même vachement marqué, dans le sens où un être humain, un homme, une femme, il a besoin de se construire aussi avec du végétal, et que c'est pas là où on en trouve. Sinon, au niveau de la surpopulation, ça nous est arrivé, nous, un week-end par exemple, on nous a rajouté un détenu, sachant qu'on était déjà 3 dans une cellule de 2, on nous a rajouté un détenu en nous disant il est suicidaire, on peut pas le laisser tout seul. Alors, on va le gérer, on est là pour ça, hein, de toute façon on est là pour faire du social. Donc du coup, on s'est retrouvé à 4 dans une cellule, donc avec quelqu'un qui devait dormir par terre. Donc on peut imaginer, dans 9 mètres carrés, les effets de domination, les effets de soumission, les effets de combat entre les personnes pour avoir ces postes là où en fait on n'a même pas le choix, même si on n'est pas quelqu'un qui est dominant en soi ou qui cherche à dominer, on est obligé, pour se protéger à un moment donné, d'avoir une forme de quelque domination sur les autres.
En fait, il y a un ensemble de processus, de procédures aussi de l'administration pénitentiaire qui vise quand même à isoler les gens les uns des autres ou à les mettre en concurrence. Et j'imagine, enfin, je sais pas, peut-être que tu peux nous parler un petit peu des relations avec les personnels, que ça soit les matons, mais aussi l'ensemble des personnels qui sont pas censés être là pour faire perdurer ou d'être dans la continuité de la répression. Je pense aux médecins, à ces rôles-là, et qui pourtant font partie intégrante et font perdurer complètement la punition. Enfin voilà, eux, ils sont pas, en général, ils sont pas dans une démarche très bienveillante par rapport aux détenus, quoi. Si tu peux nous parler un peu de cet effet-là, un peu déshumanisant.
Le côté déshumanisant, pardon, je vais commencer par un exemple que j'allais donner juste avant que tu parles de ça.
Pardon.
Non, mais c'est pas grave, ça va tout à fait dans la continuité du truc. Il y a un gars qui a fait une tentative de suicide une nuit. On a commencé par tous appuyer sur l'interrupteur pour appeler. Donc la nuit, il faut savoir qu'il n'y a pas de maton. On est fermé à partir de 18 ou 19 heures, je me rappelle plus exactement, 18 heures jusqu'à 7 heures du matin, ou 6 heures du matin. Enfin voilà, la nuit, il n'y a personne. En gros, il y a des matons à distance. On a un interrupteur pour appeler les matons en cas de souci. Donc on avait un co-détenu dans une autre cellule qui était en train de faire une tentative de suicide, donc qui gueulait parce qu'il était en train de se tailler les veines, donc il avait mal. Et donc du coup, en fait, on a tous appuyé, quasiment au moins dans ma cellule, on a tous appuyé sur le bouton pour appeler les matons. Et au final, ils sont venus le chercher à 6h. Alors au final, au bout de 2 heures qu'il gueulait, on a tous commencé à gueuler, mais ferme ta gueule. Voilà. Donc en gros, on avait quelqu'un à côté de nous, un être humain qui était en train de se suicider. Et à un moment donné, en fait, on s'est retrouvé tellement démunis, on s'est retrouvé tellement dans une position de merde face à ce gars-là, où en fait, ouais, en plus, voilà, il y avait un truc où il avait fait un peu des embrouilles à des gens, machin et tout. Mais au début, tout le monde était là, à dire, oh, les matons, venez, venez, il y a quelqu'un qui se suicide et tout. Et en fait, ils ont pas bougé, ils sont pas venus. Et du coup, au bout d'une heure, en fait, comme on pouvait rien faire, qu'on était bloqué dans notre cellule, au bout d'un moment, les gens, ils ont commencé à lui dire, mais ferme ta gueule, laisse-nous dormir.
Et du coup, ça, les interrupteurs, c'était à Villefranche.
Ouais, les interrupteurs, c'est à Villefranche.
À Saint-Paul, il n'y avait pas ça, tu t'appelais.
Alors, à Saint-Paul, on tapait sur la porte. Le côté bruyant de la prison, c'est une histoire aussi d'exister, de s'exprimer aussi un peu. Voilà. Mais on tapait sur la porte, mais la nuit, il venait pas plus. Du coup.
Parce que quand on écoute les Bérou et compagnie, ouais. En fait, ils sont vraiment désolés que la prison, ça ne soit pas un hôtel 5 étoiles. Et ce qu'ils nous expliquent, c'est que finalement, eux, ils ont envie que ça soit un hôtel 5 étoiles, mais ils peuvent pas trop pour des raisons financières. Et toi, qu'est-ce qui t'a persuadé qu'en fait, tu vois, ils avaient vraiment pas envie de transformer ça en hôtel 5 étoiles, quoi ?
Ce qui m'a confirmé, c'est le dentiste qui se fait du fric sur les télévisions à Villefranche, et qui, du coup, la télévision, c'est un peu la seule chose qu'il y a à faire. Et que du coup, dans ce côté 5 étoiles, on pourrait dire, souvent les gens ils disent, ah mais ils ont des PlayStation ou je sais pas quoi, et en fait non, par exemple, le dentiste à Villefranche, le gars il se faisait 10 € par détenu par cellule, donc 2 ou 3 détenus par cellule, donc il se faisait un 30 €,
4 le week-end
et des fois 4 le week-end, voilà, et il se faisait il se faisait des thunes pour louer la télé aux détenus. Et après il y a d'autres exemples comme ça, le même dentiste qui, du coup, j'avais un abcès, je suis allé le voir. Le gars, en fait, il était tellement pressé qu'il laissait les outils dans ma bouche. J'ai jamais vu ça, quoi. Genre, le gars, il enlevait l'outil, il changeait l'outil, et en même temps, il continuait à me soigner avec l'outil dans la bouche, en me disant qu'il était pressé et qu'il avait pas assez de temps. Et en même temps, tu sais que c'est le gars qui se fait 10 € sur ta gueule chaque mois, et qui, du coup, il est là et dit, les dentistes, mais en fait, ils te soignent pas.
Alors qu'il est vendeur de télé, en fait, le mec.
Ouais, en gros, ouais, double casquette, quoi. Et du coup, ouais, souvent, les Bérous, et puis souvent, les gens ont pris l'habitude de dire, ouais, que c'était un truc où en fait, on allait bien, ou, non, en prison, la prison française, se construit clairement les djihadistes de demain, et la prison française fait en sorte qu'effectivement il y a un tel manque d'humanité qu'on se retrouve avec des situations de merde où les humains sont...
Mais précisément aussi parce que on a beau t'exclure de la société complètement, de te mettre au banc de la société quand on te met en prison, par contre le capitalisme, il semble que à tous les endroits où il peut s'insérer, il s'insère, et là c'en est un exemple flagrant, hein. Le travail en prison, c'est la même chose, c'est un scandale total.
Clairement.
Mais c'est parce que le capitalisme, là où il peut se faire de la plus-value, et en prison en l'occurrence il peut s'en faire pas mal.
Les cantines aussi.
Mais quand on dit la prison crée du récidivisme, du djihadisme, etc., etc., faut pas non plus se leurrer, hein. C'est pas des billets ou des déviances de la prison, c'est le but de la prison.
Disons quand
elle est là pour ça, en fait, elle est là pour créer une population qui est ostracisée, qui est
en marge.
En marge.
Alors moi, je voudrais juste, parce que t'as fait Saint-Paul, en gros, enfin t'as été à Saint-Paul, et que du coup des prisons, enfin des maisons d'arrêt comme Saint-Paul, il en reste encore un bon paquet en France, hein, dont certaines qui remontent au Moyen-Âge, hein, dans un certain nombre de villes, et elles sont particulièrement difficiles à supporter, aussi à cause de l'insalubrité, hein, rats, cafards, cadgal, humidité, froid. Dernièrement à Fresnes, l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, a exposé de nombreux et récents témoignages de détenus qui se plaignent, entre autres, de lits infestés de punaises, odeurs pestilentielles, de rats morts ou de la cohabitation en cellule avec des cafards par centaines, etc., etc. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, je sais que tu as vécu un peu ça à Saint-Paul, et si tu peux en parler un petit peu.
Oui, après, c'est vraiment... du coup, la prison, c'est de toute manière difficile d'en parler, parce qu'en fait, ça dépend comment tu arrives, à quelle heure, pourquoi, pour quelle raison, dans quel état t'es à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc., si t'es déjà allé, si t'es pas déjà allé. Enfin bref, ça dépend vraiment de plein de choses. Et du coup, moi, j'ai une certaine impression qui est sur certaines choses, mais par exemple par rapport à l'hygiène, moi j'ai l'impression qu'en tant que blanc arrêté pour histoire politique, on m'a mis plutôt dans des quartiers plutôt assez clean. On m'a pas mis à l'époque au bâtiment G, qui était le pire de Saint-Paul, où effectivement là les détenus disaient que ils mettaient des draps sous les portes pour empêcher que les rats rentrent la nuit dans leur chambre et viennent sur eux pendant la nuit, et qu'ils aillent pisser et chier dans leur cellule. Faut savoir qu'en fait en détention, à part si on tombe avec un gros crado, tous les jours on fait le ménage. En fait, c'est aussi une des choses qu'on a, vu qu'on a beaucoup de temps à passer, bah du coup c'est une des choses qui prend du temps et qui permet aussi de se valoriser. Donc en fait, on est toujours dans l'entretien, et il y a rarement des cellules qui sont vraiment crades, c'est-à-dire des gens qui les entretiennent pas. Mais quand t'arrives à Saint-Paul, en fait, moi le premier truc que je me suis dit, mais c'est en fait il y a 100 ans, il y a, comme tu disais, Moyen-Âge et tout, en fait il y a 200 ans, je sais plus combien de temps, enfin je sais pas le chiffre en tête, mais tu dis il y en a des milliers des pélos qui ont dormi dans ma paillasse, quoi. Il y en a des dizaines, quoi. Enfin, et des pires et des moins pires, mais en tous les cas, voilà, il y en a des dizaines. Et du coup, voilà, et par rapport à l'hygiène, je me rappelle être rentré un soir d'un jugement, enfin de la cour d'appel, et du coup le bâtiment central, donc de la forme de l'étoile d'une prison, il y a un bâtiment central qui est le mirador de la prison, en gros, et ben du coup ce bâtiment là était cafi de rats. Mais cafi, c'est-à-dire que quand on marchait, on les sentait passer à côté de nous, quoi. Et donc voilà, par rapport à l'hygiène, voilà. Donc moi, j'étais dans différents bâtiments, et le premier bâtiment où j'étais, c'était pas vraiment un des pires, et le deuxième bâtiment que j'ai fait, c'était vraiment celui qui venait de refaire, donc où on avait un toilette un peu moderne et tout machin, des cellules un peu propres et tout, et effectivement il y avait pas de ramé bâtiment G. C'est vrai que quand on passait bâtiment G, là on voyait que c'était vraiment les murs étaient noirs, crades, qu'il y avait effectivement des rats même la journée, etc., quoi.
Donc les détenus sont propres. Et c'est la prison qui est grave, quoi.
Mais oui. Grave. J'aurais jamais pensé. Moi, avant d'y arriver, j'aurais jamais pensé, en fait, qu'on était dans un truc, que t'étais dans un truc de dire, ben, je vais faire le ménage, quoi. Et du coup, on retrouve toute cette domination, j'en parlais tout à l'heure. Tu préfères toujours plus tomber, pas avec un clodo qui va pas faire le ménage et qui sait pas laver. Tu préfères toujours plus tomber avec quelqu'un qui va être un peu plus, peut-être, ou de classe basse élevée, ou de classe moyenne basse, ou quoi. Mais en tous les cas, quelqu'un qui va avoir un peu d'hygiène de soi-même, et d'hygiène, du coup, de ce qui l'entoure, quoi. Et en fait, ce truc-là qui se retrouve, et voilà. Et par rapport à l'hygiène, ouais, c'est. De toute façon, la condensation, et on la retrouve même après aussi à Villefranche, même dans les prisons plus modernes, parce que ben, le fait d'agglutiner, voilà, d'agglutiner des gens, c'est comme des quartiers ou quoi.
Ouais. Alors justement, pour rappel, quelques chiffres, hein, pour les prisons qu'on a autour de nous. À Lyon, Corba, il y a aujourd'hui 948 détenus pour 688 places, donc un taux d'occupation de 137,8%. Et Villefranche, aujourd'hui, c'est une densité de 112,5%. Donc en surpopulation, toujours. Pour rappel, pour précision, juste les maisons d'arrêt, c'est là où il y a la surpopulation carcérale majoritairement, parce que dans les centres de détention, il y a un numerus clausus qui normalement est censé protéger de cette surpopulation. Du coup, juste voilà, dernière question avant de terminer. Tu nous as parlé du coup de ces conditions de détention particulièrement difficiles. et aussi de cette capacité qu'a la prison à isoler et à déshumaniser tous les rapports. Comment on fait quand on est incarcéré pour recréer du lien ? Alors, à la fois entre les détenus, avoir de la solidarité, mais aussi garder du lien vers l'extérieur, quoi, réussir à se maintenir un peu dans la société, quoi.
Il y a différentes choses, et c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ça dépend d'où on arrive et pourquoi on arrive et qui c'est qui est autour de nous et qui c'est qui nous soutient. Quand on a un peu plus de chance, qui était mon cas, on a un comité de soutien, donc forcément on a des gens qui vous écrivent, des poèmes, qui vous envoient des dessins, qui vous écrivent juste deux mots sur une lettre, et ça permet en fait de pas oublier qu'on est aux oubliettes. Alors on est très vite surnommé l'écrivain ou l'intello parce qu'on écrit des lettres et qu'on répond à des lettres et qu'on lit des lettres, mais c'est souvent une forme un petit peu de jalousie, dans le sens où le mot qui revient le plus souvent, c'est d'être aux oubliettes et de pas avoir du tout, en fait, ça m'est arrivé de me retrouver avec un gars où en fait personne de sa famille a priori, parce que c'est, je le connais pas intimement, mais même si j'ai passé quelques semaines avec lui en cellule, je sais pas si tout était vrai, mais en tous les cas, de ce qu'il disait, ce qu'il racontait, ça se tenait. Et il disait qu'en fait lui, il s'était fait choper en France, que sa famille était en Italie, et qu'en fait de sa famille, du coup, personne savait où il était, parce que sa famille faisait partie de gens qui étaient des migrants, et du coup ils avaient pas d'adresse, donc ils pouvaient pas écrire ni lui à sa famille, ni sa famille du coup savoir où il était et lui répondre. Donc à ce côté un peu oubliette, donc l'écrit, la lettre est vachement importante et fait vachement changer les choses. Souvent on entend sur 90 enquêtes, là ils ont trouvé 3 portables dans une cellule, ça y est, tout le monde est choqué, mais en même temps le portable il sert surtout pas à s'évader, il sert surtout à discuter avec sa fille, avec son fils, avec sa femme, avec sa mère, avec son père, qu'importe.
Il devrait être obligatoire, le portable.
Et du coup le lien téléphonique, en fait il est super important et il changerait pas à la prison, mais il arrangerait quand même pas mal les choses. Et donc voilà, souvent on trouve des portables, mais c'est pas juste pour faire du trafic, sachant que souvent les matons sont liés à ce trafic là quand il y a du trafic,
parce qu'ils sont humains
et parce qu'ils se font aussi du bise en rentrant des portables, en rentrant du touch, en rentrant d'autres choses en prison. Donc voilà, donc du coup ben c'est vrai que je disais, il y a l'écrit, après il y a le parloir sauvage. Où on pourrait croire que les gens qui font des projectiles à l'intérieur des prisons, ils balancent juste de la drogue et des armes. En fait, les armes, quand on a un peu débrouillard, suffit de regarder MacGyver, des armes, t'en fabriques avec n'importe quoi. Tu prends une canette de coca, tu la découpes, tu fais un couteau. Si t'as envie de découper quelqu'un, tu le découpes, y a pas de problème. Mais donc, des armes, en fait, c'est pas ce qui se passe le plus souvent au parloir sauvage et aux projections. Ce qui se passe aux projections, bah, des fois, ouais, y a du touch, c'est sûr, hein. Je vais pas dire le contraire. Y a du cannabis, c'est sûr, qui rentre, et heureusement. Mais, il y a aussi des sandwichs ou des poissons qu'on trouve pas à l'intérieur parce que cantiner ça coûte cher. Voilà. Donc le parloir sauvage, c'est aussi un lien avec l'extérieur. Savoir que le parloir sauvage est répréhensible et puni aussi par la loi, et qu'il y a souvent des flics qui tournent autour des prisons pour arrêter les gens qui vont faire des parloirs sauvages. Et après, dans la communication, je crois que j'ai fait un peu le tour après de ce qui peut exister, quoi.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Alors, si vous voulez plus d'infos, si ça vous intéresse particulièrement le monde carcéral, il y a une émission sur Radio Canu qui est dédiée à la question tous les jeudis entre 20h et 21h. Alors, c'est en alternance, une semaine sur deux, c'est l'émission La Petite Cuillère, donc qui est faite ici à Radio Canu. Et la semaine suivante, c'est Papillon, qui est une émission anticarcérale produite à Saint-Étienne. Vous pouvez aussi vous abonner à L'Envolée, qui est un journal sur la question des prisons, qui est disponible à Lyon, à La Griffe ou à Terre des Livres.
Et qui donne la parole aux détenus.
Voilà. Et sinon, ce jeudi à 20h, justement, l'émission La Petite Cuillère sera en direct de la librairie Un Petit Noir, qui est montée de la Grande Côte. Et elle recevra justement l'Envolée pour une émission spéciale. Donc, n'hésitez pas à passer.
Vas-y. Du coup, je voulais remercier le comité de soutien qui, à l'époque, était présent et m'a soutenu. Il faut penser aussi souvent aux familles, parce qu'en fait, c'est les gens qui sont dehors qui galèrent aussi vachement, parce que du coup, ils ne voient pas ce qui se passe. Et c'est super inquiétant pour les familles. Donc, voilà, je vais faire une dédicace à mes enfants et à ma famille et tous les proches qui ont été autour de moi, parce que du coup ça a été aussi dur pour eux, et voilà, et aux filles, aux copines qui sont en prison, et aux garçons, aux copains qui sont en prison, et dire voilà, lâchez pas, et on pense à vous, quoi.
Et un jour on les détruira toutes.
Ouais.
Merci. Donc voilà, on clôture le sujet. On passe à l'agenda. Rapidement.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer à l'agenda. On fait très rapidement.
On file 2-3
infos. Il y a un concert jeudi au Rafio pour soutenir le collectif ZAD. Le jeudi 15 juin, il y a Afed Ben Othman et L'Envolée à la librairie, justement, un petit noir, 20h, montée de la Grande Côte. Et mercredi, il y a la Gilutte.